comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons conclure cette semaine haïtienne de Priorité Santé par un portrait dans l'esprit de la série que nous vous avions proposé pour commencer cette année 2019. Un entretien avec un homme, il est médecin, il est chercheur, engagé pour la santé publique, un nouveau parcours de vie exceptionnel pour le bien-être du plus grand nombre. Un parcours qui lui a valu d'être distingué par le titre, ici à Port-au-Prince, de trésor national.
RFI.
Professeur Jean-William Pape, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin infectiologue, directeur des centres GESCIO, ce groupe d'études haïtien sur le sarcome de Kaposi et les infections opportunistes que vous avez créé au début des années 80, ici à Port-au-Prince, où nous avons enregistré cette émission. Docteur Jean-William Pape, votre travail, votre champ d'action médical est très large, on va l'entendre au cours de cette émission. C'est ce qu'on va entendre donc pendant près d'une heure, mais votre nom, il reste associé à une maladie. Cette maladie, c'est le sida. J'ai envie de vous demander comment est-ce qu'a commencé votre histoire avec cette maladie qui, à l'époque, n'avait pas encore de nom.
En fait, ça a commencé en 1979. À l'époque, je revenais à peine des États-Unis comme instructeur en médecine à l'Université Cornell. Et je devais faire un projet sur la cause des gastro-entérite chez les enfants. Comme vous savez, les enfants, c'est la cause première de mortalité chez eux dans le monde. Et quand j'ai commencé à faire cette étude, j'ai réalisé que 44 sur 100 enfants mouraient. Quand on a une gastro-entérite, on meurt essentiellement de déshydratation. Donc il fallait réhydrater ces enfants. Et la salle était remplie d'enfants avec des solutions intraveineuses. Mais la réalité, c'est que ces enfants étaient admis à la salle d'admission, qui était la même pour tous les autres enfants. Il fallait que les parents aillent acheter des médicaments. Les soins étaient gratuits, évidemment, à l'hôpital, mais on n'avait pas les médicaments requis, particulièrement les solutions intraveineuses. À l'époque, les médecins prescrivaient également des antibiotiques, des antidiarrhées que nous savons qui sont tout à fait inutiles. Donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc quand les parents finalement revenaient avec une partie ou tous les médicaments, l'enfant était en déshydratation sévère. Et la mortalité est très élevée pour ces enfants-là. J'ai dû arrêter l'étude pour essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire pour ces enfants. À l'époque, comme vous savez, il n'y avait pas d'internet. J'ai dû retourner à la librairie à New York, à Cornell. J'ai feuilleté tout ce que j'ai pu trouver pendant 2 semaines. Et j'ai trouvé qu'on faisait une étude sur le choléra au Bangladesh en utilisant une formule orale et qui semblait assez efficace. J'ai ramené la formule ici, je l'ai essayée et puis ça a été le miracle. Aussitôt qu'on le donnait aux enfants, pratiquement 20 minutes après, ces enfants qui étaient moribonds revenaient à la vie. Alors, j'avais environ 4 enfants par lit, et il fallait absolument que les parents nous aident, puisqu'on n'avait pas assez de personnel. Et c'était très bon que les parents soient là, puisqu'ils voyaient l'effet du sérum oral, et en plus, ils apprenaient comment prendre soin de leurs enfants. En fait, ils sont devenus les plus grands promoteurs du sérum oral. Un an et demi après, le programme a été lancé à l'échelle nationale. On a eu une unité dans chaque grande ville d'Haïti. Il y a même eu production de ce sérum par une compagnie haïtienne. Le nombre d'admissions, qui était considérable, avait chuté à 200. À un certain moment, on avait plus de 7000 par année. Il a chuté à 200 et on a fermé l'unité.
Donc ça, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qu'il y avait dans cette solution, docteur Pape? C'est quelque chose qu'on peut expliquer au grand public ou c'est trop compliqué?
Non, c'est très facile à expliquer. C'est essentiellement du sucre, du glucose. Et quand on prend le glucose, l'eau suit le glucose à l'intérieur de l'intestin. Et tout ce que vous voulez, c'est garder l'enfant réhydraté.
Comment on passe de cette solution donc de réhydratation, on l'a compris, au sida? Comment est-ce qu'on y arrive dans votre parcours d'infectiologue?
Bon, vous savez, moi je suis interniste infectiologue et je travaille en pédiatrie. Et évidemment, la nouvelle s'est su très rapidement qu'on avait un produit efficace pour traiter les enfants qui avaient les diarrhées infectieuses. Et automatiquement, les internistes, mes collègues, m'ont invité à voir des patients qui avaient également une diarrhée chronique. C'était les premiers cas de sida.
Est-ce que vous vous rendez compte à ce moment-là que vous êtes devant des patients pas comme les autres, on va dire des cas originaux? Qu'est-ce qu'il y a qui diffère de l'habitude?
Tout à fait. Vous savez, j'ai fait une formation de 2 ans également au Memorial Sloan Kettering à New York, qui est un hôpital qui traite essentiellement de cancer. Et ces patients, c'est exactement à ces patients cancéreux que j'ai pensé. Parce qu'ils avaient des infections dites opportunistes. Et c'est plutôt quelque chose qu'on observe essentiellement chez les cancéreux. On n'avait pas l'habitude de voir. Donc, automatiquement, ça a fait un déclic. On a eu beaucoup de cas de tuberculose dès le départ. Et en fait, ce qui arrive dans le sida, et c'est pourquoi au départ, la maladie, on a appelé notre groupe, groupe haïtien d'études du sarcome de Kaposi des infections opportunistes, parce que c'est ainsi que se présentaient les patients, soit avec l'un, avec l'autre ou avec les deux. Le mot sida n'existait pas encore. Donc, ça nous a permis de mieux comprendre ce qui se passait. Ça se présentait essentiellement avec des diarrhées chroniques, avec des manifestations cutanées, et également une sorte de prurite qui a été décrite en fait par Dr Bernard Liotto, qui est dermatologue dans notre groupe, pour la première fois. Et ça se voit surtout sur les surfaces exposées du corps, les bras en particulier. Et ça répond en général au traitement antirétroviral. Donc quand la situation immunitaire du patient est très faible, ça apparaît. Ensuite, ce qu'on a vu aussi, c'était une forme de cachexie, où les malades étaient extrêmement maigres. On a vu quelque chose que, fort heureusement, on ne voit plus. Les cheveux crépus étaient devenus fins. Donc, quelque chose qu'on voit dans les cas extrêmes de malnutrition. Donc, c'était ainsi que se présentaient les premiers patients, avec évidemment fièvre, diarrhée, et au niveau pulmonaire aussi. La plupart présentaient la toux et c'était le plus souvent la tuberculose.
Alors ce que vous nous décrivez est très intéressant, docteur Jean-William Pape, c'est que en fait tous ces signes sont devenus dans les années 80 ce qu'on pourrait quasiment appeler les stigmates du sida, qui avec le temps, avec ces fameux antirétroviraux, n'ont pas complètement disparu mais se sont atténués. On ne voit plus comme ça des personnes dans la rue, on voit moins de personnes dans la rue qu'on repère en disant lui il est peut-être porteur du VIH, il a peut-être le sida. Aujourd'hui ces traitements ont permis de changer même la vue de la maladie, le ressenti.
Tout à fait, en Haïti actuellement on dispose de 170 centres à travers le pays où on peut bénéficier des antirétroviraux. Donc de ce côté-là je peux dire que ça fait plus de 10 ans qu'on ne voit plus ce genre de patients. Et les patients nous arrivent de plus en plus tôt.
Et aussi, ils sont de plus en plus rares, même si la prévalence reste encore importante ici en Haïti, aux environs de 2%. C'est malgré tout beaucoup moins de ce qui était le cas il y a encore simplement quelques années.
Tout à fait. En fait, dans les années 90, il y a un représentant de l'Organisation panaméricaine de la santé qui nous avait dit « Bon, écoutez, il n'y a rien à faire, les gens vont mourir. » Et c'était tout à fait décourageant. Fort heureusement, les médicaments sont arrivés et ça fait vraiment une différence énorme. C'était l'effet Lazare qu'on a vu avec ces médicaments.
Avec les gens qui se sont relevés. Docteur Jean-William Pape, tout le monde vous appelle Bill Pape, pourquoi?
Mais parce que mon prénom c'est Jean, mais j'ai également William. La plupart des gens qui s'appellent William, on les appelle Bill. On me demande toujours comment m'appelle ma mère. Ma mère m'appelle Bill, donc voilà.
Donc on vous appellera Bill aussi. Professeur, docteur Bill Pape, donc on change de nom à la moitié de l'émission, c'est intéressant. Les États-Unis aussi, c'est important dans votre vie, dans votre formation, vous enseignez. Vous êtes très lié à l'université de Cornell aux États-Unis. Et une question qui peut paraître un petit peu bizarre, mais en tout cas, c'est très fréquent qu'elle soit posée à des Haïtiens. Pourquoi vous n'êtes pas resté travailler aux États-Unis? Est-ce que ça vous choque d'ailleurs? Pourquoi pose-t-on toujours cette question aux Haïtiens quand ils ont du talent, quand ils ont de la connaissance, de dire pourquoi êtes-vous resté dans votre pays?
Bon, vous savez, l'expérience aux États-Unis a été extrêmement enrichissante. Excusez-moi. D'abord, à aucun moment, j'ai senti une forme de discrimination. Au contraire, ils voulaient m'encourager à rester. Tous les patrons que j'ai eus étaient excellents. J'ai beaucoup appris d'eux. J'ai appris une chose en particulier. J'ai appris qu'on pouvait avoir des points de vue différents, mais ce qui avait le plus important, c'était l'institution. Il fallait que tout le monde se mette ensemble pour faire avancer l'institution. Même si on avait des différends très importants avec X, Y ou Z, il fallait les oublier quand on regardait le bien commun. Et maintenant, pourquoi je suis retourné à Haïti? Ben, c'était toujours dans mes plans. Et je peux vous dire que ce qui m'a amené à penser dès le départ à Haïti, c'était l'école qui m'a formé. J'étais formé au petit séminaire Collège Saint-Martial par des prêtres français qui étaient extraordinaires. On avait une éducation impeccable. Mais surtout, ils vous apprenaient à penser indépendamment et ils avaient beaucoup d'exemples qui vous donnaient pour vous faire aimer votre pays. Et j'ai beaucoup appris d'eux. Ce que j'ai aimé aussi à cette école, c'était une école inclusive. On rencontrait toutes les classes sociales. Et je peux dire que les amis que j'ai aujourd'hui de toutes les classes sociales sont encore les amis que j'avais à l'école. Ce que j'ai appris aussi de cette école, c'était le rôle du sport. On faisait beaucoup de sport, mais en fait, j'étais le capitaine de l'équipe de volley, qui était devenue championne d'Haïti et participait au championnat international. Mais ce qui était le plus important, c'était le jeu d'équipe. Et dans le jeu d'équipe, il fallait s'assurer de gagner, mais également de se préparer à perdre et se relever après. Et c'est un peu ça, le leadership. C'est ça que j'ai appris et qui, je pense, a été déterminant pour moi pour mieux comprendre le rôle du travail en équipe.
Docteur Bilpa, vous y étiez pendant quelles années? C'est quoi la période de cette scolarité à Saint-Martial?
J'ai fait toutes mes classes, de la 12e à la philo.
Donc primaire jusqu'à la terminale.
Jusqu'à la terminale. Et ils nous apprenaient non seulement à aimer notre pays, mais à questionner tout ce qui se passait autour de nous. Et c'était cet esprit critique qui m'est resté et que j'encourage avec mes étudiants, qu'ils comprennent qu'il n'y a pas une réponse, qu'il y a des réponses et qu'il faut trouver les vérités, la meilleure, et c'est ainsi que la science avance, c'est de ne jamais se reposer sur ce qu'on sait, il faut aller plus loin.
Vous en êtes sorti bachelier en quelle année, docteur Pape?
J'ai terminé Haïti, c'était en 69.
69, 2019, hein, ça fait tout juste 50 ans. Amélie Baron s'est rendue justement dans ce petit séminaire Collège Saint-Martial. Tout de suite, on écoute son reportage.
Pour moi, Saint-Martial, c'est une famille. C'est toute une histoire, c'est une fierté.
Le petit séminaire Collège Saint-Martial, cette célèbre école pour garçons ancrée au cœur de Port-au-Prince. Comme en témoigne le père Rénal de Cellus, qui dirige le secondaire, c'est une référence d'excellence depuis son origine.
Ça fait déjà 154 ans d'existence. C'était presque tout le pays, tous les départements qui envoyaient des étudiants à Saint-Martial pour recevoir donc une bonne éducation en 1869. L'école n'a pas été fermée, mais les missionnaires spiritains qui travaillaient donc ici étaient exilés par François Duvalier. Mais l'école fonctionnait quand même.
Ça n'est pas sous la dictature, mais Saint-Martial aurait pu disparaître le 12 janvier 2010 quand le tremblement de terre a détruit tous ses bâtiments.
Et avant le séisme, c'était la résidence des pères qui était ici au milieu là. Maintenant, il y a un parking. La chapelle de l'école a été aussi endommagée. Ça marque les élèves, les anciens élèves aussi quand ils viennent ici. C'est pas facile de digérer ça parce que quand ils étaient ici, c'était vraiment extraordinaire. Tout a changé avec le séisme. Ils n'arrivent pas donc, à digérer tout ça, mais quand même, donc, on fait avec, on avance.
Toute la bête qui s'affolait.
Le primaire est entièrement reconstruit, l'école avance, toujours fidèle à sa devise, une force, une tradition, une famille, une appartenance qui soude les anciens, dont beaucoup font la fierté de Saint-Martial.
Et ceux qui sont passés ici par Saint-Martial, quand on les voit donc, dans la société, voilà, on est fiers d'eux. Ce qu'ils représentent pour le pays, comme docteur Pape, un grand homme qui est voilà, très connu pour ce qu'il fait, son travail, son esprit d'appartenance, pas seulement à Saint-Martial, mais à la société haïtienne. Et c'est ça aussi qui fait notre force, qui fait de nous vraiment une référence.
Mais il y a d'autres références à Port-au-Prince. Les générations passées, une tradition perdure. Posons la question à Jean-Gardy Monrose, élève de terminale à Saint-Martial.
Il y a une petite rivalité entre Saint-Martial et Saint-Louis, notamment pour le football. Est-ce que ça existe toujours, ça?
Oui, et c'est pas simplement au niveau du football. Saint-Martial et Saint-Louis, c'est comme Real Madrid et Barcelone. Parce qu'il y a une certaine rivalité, malgré c'est pas volontaire. Depuis que je suis entré à Saint-Martial, c'est comme ça. C'est toujours comme ça.
Un reportage d'Amélie Baron, les générations passent et ça vous fait sourire cette rivalité entre ces deux établissements de Port-au-Prince, docteur Bill Pape?
Tout à fait.
Ça existait déjà en 1969?
Ah oui, énormément en fait. Saint-Louis était une école très très bien organisée par des frères qui venaient de France aussi. Et beaucoup de mes amis actuellement sont également des gens de Saint-Louis. Je pense par exemple à Jean-Robert Argan, qui est très actif dans un groupe politique actuellement à Haïti. Et c'était mon rival, parce qu'il était le capitaine de l'équipe de volley de Saint-Louis, mais nous sommes très très bons amis.
Après Saint-Martial, il y a eu donc l'Université de Cornell aux États-Unis. Retour à Port-au-Prince, alors médecin, chercheur, professeur, directeur des centres GESCIO. Docteur Bill Pape, dans ses nombreux emplois, ses nombreux rôles, est-ce que vous en avez un qui vous tient particulièrement à cœur ou vous tenez à être tous là en même temps?
Bon, je pense que la vision des centres GESCIO se base sur la recherche, la formation et les soins. Et cette mission que nous avons a évolué, en particulier après le tremblement de terre, puisqu'on y a ajouté la santé globale.
Médecin, chercheur, professeur, directeur des centres, j'oubliais peut-être aussi à vous entendre, collecteur de fonds, parce qu'il faut de l'argent pour travailler ici, il faut de l'argent pour soigner les gens. On ne peut pas compter, on va dire simplement, sur l'argent du gouvernement pour le faire, même si vous travaillez étroitement avec le ministère de la Santé. Docteur Bill Pape, est-ce que vous vous êtes aussi transformé en maître qui va un petit peu demander de l'argent aux uns aux autres? Vous parlez de donateurs en France, mais c'est un effort international pour financer la santé en Haïti.
Tout à fait. On a des financements différents en fonction des activités qu'on mène. Par exemple, pour la recherche, on a été financé par des appels d'offres compétitifs du National Institute of Health. Et depuis 1983, on a continué jusqu'à date. Ce sont les projets les plus difficiles à préparer parce que ça nous prend presque un an à les préparer. Et les chances de réussite pour ces projets ne dépasse pas 5%. Donc il y a une compétition féroce et nous autres, on a été chanceux, on a toujours obtenu ces appels d'offres depuis 1983. Donc ça, c'est pour la recherche. Pour la formation en recherche, il y a également des appels d'offres du Fogarty, du NIH aussi, Fogarty International. Et là aussi, depuis 1989, on a remporté des appels d'offres jusqu'à date qui continuent. Pour la recherche aussi, on fait partie du réseau Gabriel de la Fondation Mérieux. Donc la Fondation Mérieux a monté ce réseau de laboratoires en infectiologie à travers le monde. Il y a en fait 18 pays intéressés dans tous les continents. Et notre laboratoire qui est à Tabar, l'autre centre des centres GESCIO, qui porte le nom de Rodolphe Mérieux, ils ont dû, après l'avoir mise en route en 2009. On a eu un petit pépin avec le séisme, mais il a résisté. On l'a remis en place 6 mois plus tard. 3 ans par la suite, on a dû l'agrandir de 40% environ, parce qu'il était déjà trop petit, et on l'a agrandi à nouveau l'année dernière. On vient de refaire le parquet. Et là, c'est un laboratoire qui est extrêmement actif. On a rapporté également la médaille d'or pour l'accréditation. Donc, on est le premier des centres Mérieux du monde à l'avoir obtenu. Donc, on est très, très fiers de ça. On fait partie également de plusieurs réseaux internationaux de recherche, dont certains qu'on a créés dans la Caraïbe et dans l'Amérique centrale. Donc ça, c'est pour la partie recherche. Pour la partie service, on bénéficie des fonds du Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le PALU, et également du programme PEPFAR, le programme qui a été mis en place par le président Bush et qui est un programme remarquable.
Alors, tout à l'heure, vous définissiez comme quelqu'un qui aime et qui sait diriger les équipes. Est-ce que vous définiriez aussi par votre capacité de travail ? En tout cas, c'est ce que disent les autres de vous.
Vous savez, quand vous aimez ce que vous faites, c'est pas du travail. Pour moi, c'est du plaisir. La raison pour laquelle on garde notre personnel, en fait, les deux personnes qui étaient avec moi avant même qu'on forme les centres GSQO, donc en 79, sont toujours là. Miss Cadeau, l'infirmière en chef, et Miss Beaulieu, qui était là pour le labo. Donc les deux sont encore là, depuis 79 à nos jours. Et les gens sont attachés à l'institution parce que on arrive à trouver des solutions à des problèmes et on peut, de notre vivant, voir les résultats. Par exemple, je peux vous dire, le sida était la première cause de décès à Haïti. C'est maintenant la 7e cause. Si vous allez en face, de bidonville en face, le pourcentage de gens infectés au VIH est de 0,4%. Par contre, 40% ont l'hypertension artérielle. Donc, comme nous sommes au service de la population, particulièrement des vulnérables et des pauvres, on a dû monter le premier centre de maladies cardiovasculaires.
Donc, vous adaptez complètement à la situation. Un laboratoire, justement, très pratique. Et je vais vous proposer tout de suite d'entendre ce petit retour en arrière, un autre retour en arrière, avec l'un de vos anciens professeurs qui est devenu votre ami.
Port-au-Prince, 89.3 FM, RFI.
Bonjour, Père Jean-Yves Urfié.
Bonjour.
Nous avons enregistré cet entretien il y a quelques jours. Vous avez été professeur du docteur Bill Pape au sein du Collège Saint-Martial de Port-au-Prince, ce collège très cher au cœur du docteur Pape aujourd'hui. Vous résidez à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous avez rencontré Bill Pape ?
J'étais professeur de chimie, je venais d'arriver en Haïti et il faisait partie de la première classe à qui j'ai enseigné. À l'époque, il était dans la classe de philo. C'était l'année scolaire 64-65.
Alors, 65-2019, comment cette relation s'est tissée ensuite au cours de ces années, au cours de ces décennies ?
Ah ben, nous sommes restés en contact parce que c'est un élève qui était très attachant et il faisait partie d'une promotion extrêmement brillante. Et quand je suis revenu en Haïti, dont j'avais été expulsé par Duvalier, je l'ai retrouvé et on était très contents de se retrouver. Je le voyais régulièrement, il m'invitait chez lui, à déjeuner, etc. Et je suis devenu curé d'une paroisse qui était à côté de là où il habite. Il habite Kinskoff. Moi, j'étais à Furcy, qui est un peu plus loin dans les montagnes.
Est-ce que vous gardez en mémoire quel élève était justement Bill Pape dans ses années 60 ?
Oh, c'était un élève brillant.
Vous avez connu le collégien Père Jean-Yves Urfié, vous avez assisté à l'évolution, la carrière. Est-ce que ce cheminement vous a étonné ?
Non, c'est un cheminement progressif, normal, parce qu'il avait fait un choix qu'il a gardé, et qu'il a gardé jusqu'à maintenant, parce qu'il s'investit non seulement en médecine, mais il a une vision très globale de sa fonction. Et il ne se contente pas, par exemple, de traiter les malades du sida ou du choléra, mais il cherche à donner à ceux qui sont malades une chance de s'en tirer après, une fois qu'ils sont guéris. Je prends pour exemple les ateliers qu'il avait lancés pour les prostituées. Il a lancé des ateliers d'enseignement de l'ébénisterie, de sorte que ces dames-là puissent avoir un métier en main après. Je dois reconnaître que les meubles qu'elles faisaient étaient de grande qualité.
Est-ce que vous diriez que Bill Papp est un homme aussi investi que désintéressé ?
S'il ne l'était pas, il ne serait pas rentré en Haïti. Il aurait fait une carrière où il aurait été probablement plus payé qu'en Haïti.
Bill Papp est un homme à ses défauts. Vous, vous verriez quels défauts chez ce grand homme malgré tout ?
Oh là là, j'ai jamais réfléchi à ça. Non, j'avoue que je n'en vois pas pour le moment, il faudrait que je cherche. Mais...
Et comment fait-on justement d'un élève un ami ?
Oh bien, c'est surtout dans les convictions intimes qu'on a. Je suis arrivé en Haïti au moment où Duvalier exécutait en public ses opposants. Donc cette génération qui étudiait à ce moment-là, ils aimaient leur pays. Et ils étaient désolés de voir leur pays dans cet état-là. Donc certains réagissaient en le fuyant, alors que Bill a réagi en revenant pour aider.
Sur les bulletins scolaires, hein, vous étiez professeur, c'est ce qu'on a dit au début de cet entretien. Certains enseignants disent « peut mieux faire ». Pour vous, Bill Papp ne vous a jamais déçu ?
Non, parce qu'il était doué pour les sciences. Il pouvait peut-être mieux faire dans d'autres domaines que je ne connais pas. Peut-être qu'il avait une mauvaise orthographe ou des choses comme ça. Mais dans le domaine que j'enseignais, il ne m'a pas déçu.
Merci beaucoup, Père Jean-Yves Urfier, hein, ancien enseignant. Et également, vous avez été un directeur du Collège Saint-Martial de Port-au-Prince. Merci d'avoir partagé avec nous ces souvenirs. Merci, très bonne journée à vous.
De rien, au revoir.
On se retrouve, docteur Bill Papp, pour ce portrait enregistré à Port-au-Prince, au centre Gesquiau. Médecin, chercheur, la politique ne vous a jamais tenté ?
Oui. Quand j'étais à Columbia, où j'étais tout de suite après Saint-Martial...
Université de la côte est des États-Unis.
Oui, c'est ça. Je suis arrivé là à un moment où il y avait beaucoup de bouleversements politiques. On a fondé ensemble plusieurs organisations d'étudiants, et on était intéressé à revenir à Haïti. Mais quand je suis arrivé à Cornell, en médecine, j'avais encore des gens dont beaucoup ont réussi en politique, qui venaient me voir, ils avaient une petite chambrette. Le doyen des étudiants m'a appelé, il s'appelait Santos Bush, il était d'origine cubaine. Et il m'a dit, écoutez, vous faites deux choses importantes, vous étudiez la médecine et vous faites la révolution. Vous n'allez pas pouvoir faire les deux. Il faudra choisir. J'ai dit oui, mais pour l'instant, ça va bien. Il m'a dit oui pour l'instant, mais ça va accélérer très vite et je vous donne 2 semaines pour réfléchir. Je suis revenu après les 2 semaines et j'ai dit que mon choix, c'était la médecine. Et depuis, je n'ai jamais pensé à la politique.
Même si on vous a fait des propositions ici, vous avez dit non.
Je pense que la médecine qu'on fait, elle dépasse la politique. On veut le bien de la population. Et le bien général, ce n'est pas seulement le bien médical. On aimerait également dans le social qu'il y ait une amélioration des écoles publiques, une amélioration de l'espace sanitaire, qui est une catastrophe. On aimerait voir un nombre considérable de jeunes atteindre l'université. On aimerait voir ce pays qui a tant de possibilités prendre ses essors. Donc, je pense que la politique vous met dans un certain carcan et je ne souhaiterais pas rentrer dans ce carcan. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus en dehors de la politique.
On vous entend ces critiques objectives de ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. En même temps, dans votre voix, beaucoup de calme, docteur Bill Papp, vous n'êtes jamais en colère, même quand vous sortez justement d'ici, du centre Gesquiau, on pousse le portail, on voit ce qu'il y a dehors. C'est la misère, hein, c'est les détritus, c'est l'abandon. Ça ne vous met jamais en colère.
Ah oui, je peux vous dire que j'ai vu ce pays dégringoler la pente depuis mon retour. Et ça fait très 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 mal. Et c'est un pays qui a tellement de possibilités. Moi j'ai connu beaucoup de présidents On voit toujours le côté négatif, mais jamais le côté positif. Quand un autre arrive, il se débarrasse de tout ce que l'autre a fait, du bon et du mauvais, et puis on démarre à nouveau, mais avec une échelle plus basse que là où on était auparavant. Donc c'est ça qui fait très mal. Et je pense que il y a fort heureusement beaucoup de jeunes qui sont retournés, qui pensent autrement, qui pensent vraiment pays. J'espère que, avant que je disparaisse, que je verrai
une quand
même une certaine lueur au fond du tunnel. Mais là, on est au fond de l'abîme. Je peux pas blâmer une personne. C'est un échec un peu collectif. Et il faudrait tout simplement qu'on arrive à s'en sortir.
Alors, docteur Bilpap, on va poursuivre cet échange après une pause musicale. Un morceau que vous avez choisi, il est interprété par une grande voix haïtienne, Carole Desmesmin, qui rend hommage à une autre grande voix, femme musicienne, Lumane Casimir. Chanson en hommage à deux femmes. Pourquoi ce choix, docteur Pape?
Carole Desmesmin, elle a une voix extraordinaire. Et c'est vraiment malheureux, je ne l'entends plus. C'est malheureux parce que c'est quelqu'un qui a une voix tellement humaine et tellement chaleureuse et qui dépeint des situations. Par exemple, elle a une chanson sur les maroulés. Les maroulés, ce sont les hommes qui amènent des troupeaux de bœufs sur des distances pour les amener à l'abattoir. Donc, elle raconte toutes les péripéties qu'ils rencontrent sur la route, mais quand elle le décrit, on le voit. Et pour Lumane Casimir, bon, moi je ne l'ai pas connue, j'ai entendu certaines de ses chansons, je savais que c'était une chanteuse extraordinaire, mais d'avoir repris justement Lumane Casimir, ça m'a beaucoup intéressé.
Et bon, on va la réentendre tout de suite.
Si la canciel de Gévoua, si la canciel de Cachande, c'est un pour Lumane Lita Chande.
Carole Desmesmin sur RFI, vous êtes toujours à l'écoute de Priorité Santé, poursuite de cet entretien portrait pour vous faire connaître, docteur Bilpap, vous faire connaître à nos auditeurs de Kinshasa, Bamako ou Paris, car ici à Port-au-Prince, on ne vous présente plus. Docteur Pape, est-ce que vous diriez que ces centres Gescio, c'est votre œuvre?
Bon, c'est pas seulement mon œuvre, c'est l'œuvre d'une équipe. C'est ça qui est important. Je crois que c'est la beauté de ce travail, c'est de pouvoir compter sur d'autres. Par exemple, je dis toujours de Marie-Marcel Deschamps qu'elle est non seulement mon bras droit, mais également mon bras gauche. C'est cette équipe qui a cette volonté, une volonté inébranlable de changer les choses.
Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, votre équipe, et on le sent hein, quand on est ici dans ce centre Gescio, les gens qui travaillent confrontés à des situations parfois terribles, parfois compliquées, mais qui gardent ce sourire, qui gardent cette envie de travailler. Docteur Marie Deschamps, Bilpap vient de citer votre nom à l'instant. Bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
Beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes directrice adjointe des centres Gescio. On va commencer, docteur Marie Deschamps, par le début de cette collaboration. Votre rencontre, c'était quand? Comment ça s'est passé?
J'ai fait mes études de médecine ici, en Haïti. Et au cours de ma résidence à l'hôpital général, ce qu'on appelle l'Université d'État d'Haïti, cet hôpital qui reçoit pour la plupart des patients démunis, l'hôpital universitaire principal. Vers les années 82, quand on a su que Bill était de retour en Haïti, il travaillait dans la diarrhée depuis déjà trois ans et faisait parler de lui. Et moi, jeune interne, à l'époque, à l'hôpital général, j'étais en charge d'une salle qu'on appelait dénommée à l'époque, la salle bleue des mourants. C'était déjà des patients sidériens qui nous arrivaient à l'hôpital général. Quand on a su que le docteur Pape était à l'hôpital général en service de pédiatrie et avait emmené avec lui le concept de sérum oral. Alors, je me rappelle une amie à moi, à l'époque, résidente aussi comme moi, on a été le trouver. Et on a dit, professeur Pape, bonjour, voilà, je suis venu vous voir parce qu'on a appris parler de vous, du sérum oral. Est-ce que vous pourriez faire une présentation à l'hôpital général, un service de médecine interne? Et c'était vers la mi-82. Il est venu effectivement faire une présentation pour nous. C'était très intéressant et on a appris. Et depuis lors, je le suivais de près. Et peut-être lui aussi, on a appris à travailler ensemble. Et j'ai rejoint le groupe du Grisio qui était en création à l'époque. Et depuis, voilà, je suis ici maintenant comme faisant partie de l'équipe.
Et comment décrire justement cette relation professionnelle avec lui, mais aussi avec tous les autres membres de cette équipe? On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de femmes. Pourquoi, d'après vous, s'entourer d'autant de femmes?
Je pense qu'il y a un dynamisme naturel chez nous, les femmes haïtiennes. Et nous sommes ce qu'on appelle les combattantes, les potomitans. Et Bill a su comprendre très tôt l'originalité et la force de travail des femmes haïtiennes. Ça a été naturel, hein. C'est une sélection naturelle qui s'est faite. Et puis on a voulu suivre le mouvement qui était un mouvement de, je peux dire, non seulement du dynamisme, mais aussi inquisiteur, essayer de comprendre pourquoi les patients mouraient, pourquoi on avait autant de cas. Il y avait une curiosité. Et l'esprit de recherche s'est développé au fur et à mesure, et ensuite l'esprit d'équipe, et voilà, on y est depuis.
Une question que j'ai posée tout à l'heure au docteur Pape, par rapport au sentiment qu'on a en est soignant, on est aussi une femme, on est aussi haïtien, est-ce qu'on arrive à travailler sans jamais se mettre en colère, par rapport à l'ampleur de la tâche, et par rapport surtout à tout ce que l'on ne pourra pas faire?
On se met en colère parce que on fait beaucoup d'efforts, on se tue de travail, on arrive très tôt, on laisse très tard. Tout le monde veut voir des résultats positifs pour son pays et ça fait beaucoup de peine et beaucoup de mal individuellement de voir que quoi que l'effort que Bill met avec nous, toute l'équipe, là, pour travailler, pour essayer de comprendre, on n'arrive pas à vaincre cette pauvreté qui nous accompagne et toutes les limitations. Des fois, c'est vrai qu'on a les bras cassés, mais on continue la bataille.
On sent jamais envie, jamais tenté de baisser les bras, une colère contenue pour justement le travail auprès des patients. Maintenant, petite minute de vérité, docteur Marie Deschamps, parfois des frictions avec le docteur Bill Pape?
Il est têtu, alors des fois il faut prendre son temps pour le convaincre, mais c'est bon d'être têtu.
Merci beaucoup, merci docteur Marie Deschamps. Docteur Bill Pape, vous ne vous êtes pas expliqué sur ce choix de travailler avec autant de femmes?
Mais ça n'a pas été un choix, c'est une sélection naturelle, parce que je vais vous dire comment on recrute les gens. On a un comité qui est en général composé de 3 personnes. Ce qu'on a noté, c'est que le choix des femmes a été tout à fait naturel. Quand ce comité a eu à faire son choix, moi je ne les vois pas. Je les vois après 6 mois, c'est-à-dire que la première personne qui les engage, c'est le docteur Deschamps, et ils sont là à titre provisoire, on les observe, ils nous observent. Et après 6 mois, si on est content de leur travail, on le leur dit, on les évalue, et à ce moment-là, je signe le contrat définitif. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au fil des temps, c'est essentiellement des femmes qu'on a reçues, parce que c'était elles qui étaient les plus motivées, les mieux préparées. Vous savez, j'ai 4 garçons. Y compris des jumeaux, et je leur dis, écoutez, vous êtes arrivés au mauvais siècle, parce que c'est le siècle des femmes. C'est elles qui sont partout, c'est elles qui font marcher le monde, c'est elles qui sont actives dans tout. Et je suis très content dans cet environnement, parce que c'est quand même magnifique de voir les femmes vraiment prendre en main des projets et les amener à bon port.
Alors, docteur Bill Pape, on l'a bien entendu, rester travailler ici vaille que vaille en défi des défis des catastrophes, comme ce jour de janvier, 12 janvier, qui a changé le cours de l'existence de tellement de personnes ici. Aux premières heures de la catastrophe, les témoins réalisent à peine ce qui est en train de se passer. Écoutez ce témoignage, c'est celui de Karel Pedre, animateur de radio haïtien.
Je conduisais et il y avait un trafic, je suis resté dans ma voiture et ça commençait à secouer. J'avais pensé que c'était un chauffeur qui m'avait heurté, mais c'était pas le cas. Puisque lorsque j'ai regardé en avant, j'ai vu des gens tomber et par terre. J'ai vu la terre secouer. J'ai vu des maisons et des arbres secouer. Mais lorsque cela s'est terminé, je suis descendu de ma voiture et j'étais je parlais à des gens. Et lorsque j'ai repris le chemin pour arriver à mon travail, j'ai remarqué des maisons qui se sont effondrées, des gens qui étaient blessés et d'autres qui criaient au secours. Je suis encore à Pétionville, mais je viens de sillonner les rues. J'étais à Delma, j'étais sur la route de Frère, j'étais encore une fois dans les rues de Pétionville et j'ai pu constater les dégâts. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues et qui essaient de dormir par terre. Enfin, ils dorment déjà par terre, certains d'entre eux. D'autres sont blessés et attendent le jour et la lumière du soleil pour pouvoir se rendre dans des centres hospitaliers et pour prendre soin, ou tout carrément trouver leur famille et peut-être secourir ceux qui peuvent être sauvés.
Mardi 12 janvier 2010, un retour en arrière, Karel Pedre, joint par Nicolas Falaise de RFI, grande secousse à 17h locale. Vous étiez où, docteur Bilpap, à ce moment-là?
Je vais vous dire, c'était l'apocalypse. On était à une réunion avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, la responsable de l'OPS-OMS, une réunion justement sur le sida pour le financement, une réunion très importante. Et on était dans une salle très étroite, il y avait une très grande table, moi j'étais à l'extrémité de là où il ne fallait pas être, il y avait une seule porte. Et c'était vraiment catastrophique parce que tout le monde s'est rué vers la sortie. Et il y a une femme en particulier qui était assez forte, qui est tombée par terre, tout le monde lui passait dessus, avec un ami dominicain qui était là, qui représentait une agence internationale. On a essayé de la mettre debout et elle est restée 2 semaines sans retrouver la parole, tellement elle était choquée. Donc quand on est sorti à l'extérieur, on a vu que les murs étaient tombés et certains des téléphones cellulaires marchaient encore. On a su que le palais national s'était effondré, que le ministère de la Santé s'était effondré. Fort heureusement, j'ai pu retrouver ma femme qui était saine et sauf, et justement, il y avait un immeuble qui avait explosé devant elle, la voiture devant était écrasée, celle qui était à l'arrière était écrasée, et elle a eu la vie sauve tout à fait par miracle, comme nous d'ailleurs, puisque l'immeuble s'est effondré par la suite.
Docteur Bilpap, qu'est-ce que cette tragédie a changé pour vous, pour le système de santé haïtien, et pour votre vie ici, à soigner les habitants de Port-au-Prince et d'ailleurs?
D'abord, c'est la confiance que ça m'a donnée dans l'équipe qu'on a. Parce que le lendemain, 60% étaient au travail, s'occupant des patients qui avaient toutes sortes de problèmes. Parce que on voyait non seulement les patients qui avaient le sida et la tuberculose, mais surtout les grands blessés. Donc il y a des grands blessés qui nous arrivaient de partout. Et c'est ainsi qu'on a dû monter un hôpital de campagne pour soigner les grands blessés. Et ensuite, un centre de réhabilitation. Donc, on a fait appel à des experts, puisque c'est pas notre domaine. Ce qui était le plus difficile, c'était d'avoir à peu près 9000 personnes sur le campus. Et y compris des gens qui avaient laissé la prison et qui s'étaient réfugiés à l'intérieur des tentes de fortune qui s'étaient établies là. Pour moi, c'était le côté le plus difficile parce que je voyais cette tente de fortune un peu partout. Je me suis dit que Haïti va devenir comme le Moyen-Orient, on va être comme les Palestiniens qui sont nés sous des tentes et qui ont des générations sous des tentes. On va jamais pouvoir sortir de cette situation. Mais ce qui nous a donné confiance, c'est la force de travail de notre personnel qui, chaque jour, a voulu faire mieux. Et nous avons pu, effectivement, réussir à remettre en place tous les immeubles qui s'était effondré à Gisquio, et on est sorti beaucoup plus fort. Parce que, en plus de tout ce qu'on avait en place, on a créé vraiment un programme de santé globale qui était vraiment très actif, puisqu'on a étendu le microcrédit qu'on avait avec la Fondation Mérieux, on a créé l'une des premières écoles primaires, qui est devenue l'école Prince Albert de Monaco. On a créé un atelier de formation vocationnelle avec les Salésiens Et au départ, c'était pour la construction, puisqu'on s'est dit qu'il faudra qu'il y ait des ouvriers capables de reconstruire. Aussitôt qu'ils avaient terminé et trouvé un emploi ailleurs, c'est cet atelier qui est devenu ce qu'on a actuellement. Vous voyez des femmes faire ces travaux extraordinaires. Donc on a étendu tout ça. On avait même un poulailler. Les femmes s'occupaient de vendre les œufs. Et qui était vraiment très très productif pendant très longtemps. Donc on a créé tout ce qui était possible, mais ce qui est extraordinaire, je peux dire, c'est le côté travailleur du peuple haïtien. Moi, je veux vous dire, je n'ai respect profond pour le peuple, le vrai peuple, c'est-à-dire le peuple pauvre, parce que imaginez qu'on ait tout ce monde à travailler ici, plus de 300 depuis 79, on n'a jamais été quitté une seule fois. Pas une personne n'a jamais été attaquée. On n'a pas de vol ici. Et c'est parce que ces gens savent qu'on travaille pour eux et qu'on les respecte et qu'on essaie de leur donner ce qu'il y a de meilleur. En fait, cette force, si on veut la puiser quelque part, il s'agit qu'à se retourner vers le peuple haïtien.
Dernière chose, docteur Bill Pape, le budget réservé à la santé en Haïti. On sait bien que le gouvernement, l'État manque de moyens. Malgré tout, ce budget diminue comme peau de chagrin, 16,6% en 2004, 5,5% en 2017, moins de 4% pour 2018. Comment est-ce que vous pouvez l'accepter? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela?
Je pense que c'est tout à fait inadmissible et c'est pourquoi nous avons beaucoup de respect pour nos collègues qui travaillent dans le système public parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent avec le peu de moyens ou sans aucun moyen. Je pense que c'est très facile de critiquer un ministre de la Santé ou un directeur général, tout autant qu'on ne sait pas avec quoi il travaille. Il travaille avec moins que rien. Nous autres, on a connu beaucoup, beaucoup de gens au ministère. On a eu une collaboration excellente avec eux. Et je pense que c'est pas normal qu'il n'ait pas davantage de reconnaissance. Mais vous avez tout à fait raison. Dans un pays comme le nôtre, il faudrait que le budget de la santé passe au moins à 14%. Ça serait au moins un sens que les choses vont dans la bonne direction. Comment peut-on espérer aider cette population avec un budget de misère comme celui qu'on a?
Merci beaucoup, professeur Bill Pape, d'avoir partagé ce moment avec l'équipe de Priorité Santé. Docteur Bill Pape, on va se séparer sur un autre son d'Haïti. On va remonter dans le temps avec Guy Durosier, avec ce titre Gabellus. Ça ne date pas d'hier, vous allez l'entendre. Avant cela, on va remercier toute l'équipe qui a préparé et réalisé cette émission. Ophélie Lassène et Victor Hull à Port-au-Prince, Didier Bleu à Paris. Et à demain pour une nouvelle rencontre dans Priorité Santé.
Gabellus, à quoi ta longue vie semblait, Jacques répète. Gabellus, c'est un petit garçon. À quoi ta longue vie semblait, Jacques répète. Gabellus, tout n'est d'une bonne.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.